Média, Monde, Version, Compte, Badge, Pascal, Homepage, Admission, Petit Bol, Tome Blanche, Micro, Beurre, Patronal.
À part manger, que faire avec ça ?
Pascal Paradou.
Que faire avec un ticket de caisse, surtout celui de la cantine ? La réponse est assez simple, rien. Au mieux, on peut le garder pour vérifier ou le jeter, ni plus ni moins. Mais tout change avec Anne James Chaton, écrivain, poète, performeur, dont le nouveau livre est directement inspiré des tickets de caisse de son quotidien. Bonjour Anne James Chaton.
Bonjour.
Votre nouveau livre s'appelle Fable et reproduit 145 tickets de caisse. Et en disant cela, j'imagine la tête des auditeurs qui se disent « Mais de quoi il parle ?» Quelle drôle d'idée !
Eh bien, 145 tickets de caisse, effectivement, mais du monde entier, dans différentes langues. Eh bien, ces tickets sont une collection, alors qu'il y a une collection au départ personnelle. Mais au fil du temps et de la construction de ce livre, j'ai sollicité alors, d'abord les proches, ensuite les amis, puis ensuite de manière de plus en plus lointaine, des acheteurs pour le coup, qui m'ont envoyé leur ticket de caisse du Canada, d'Afrique du Sud. Et puis, à partir de toute cette matière écrite, cette matière brute un peu, j'ai imaginé qu'on pouvait commencer à se raconter des histoires. Mais enfin, je ne l'ai pas imaginé tout seul. Quelqu'un m'en a donné un peu l'idée.
C'est qui ?
Il s'agit de Boileau. Alors, Boileau écrit un livre au XVIIe qui s'intitule « L'art poétique », et dans lequel il va énoncer une règle qui va être la règle que vont suivre tous les grands dramaturges du XVIIe et ensuite Molière, Racine, Corneille. Alors je vais là, moi j'ai un peu travesti, donc je vais reprendre la formulation première de Boileau, qui dit donc dans son art poétique qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tiennent jusqu'à la fin le théâtre rempli. Voilà les règles pour écrire une pièce de théâtre comique ou tragique.
Donc unité de temps, de lieu et d'action. Et c'est ce qu'il y a exactement sur les tickets de caisse.
C'est ce qu'on va retrouver, c'est ce que vous allez retrouver sur chacun des tickets de caisse que l'on va vous donner à l'occasion de vos achats.
Parce qu'il y a l'unité de temps, c'est la date. Alors, je sais par exemple que vous avez acheté une tarte au citron meringuée le 8 octobre 2022 à Marseille.
Voilà.
Ça, c'est indéniable, c'est écrit. Il y a l'unité de lieu, parce que c'était à la boulangerie Le Pain Marseillais, et on a même l'adresse.
Voilà, vous avez donc même plusieurs lieux possibles, puisque vous avez Marseille, vous avez la boulangerie elle-même, vous avez la rue Breteuil. Vous avez même plusieurs lieux possibles.
Et il y a l'action, c'est-à-dire l'achat.
Alors, oui, l'achat. Alors, c'est soit l'achat, parce que le ticket représente l'achat. Mais c'est aussi, tarte au citron, c'est manger une tarte. Vous avez aussi plusieurs actions possibles à l'intérieur du ticket. Alors, il y a l'action première qui est l'achat, et puis il y a aussi toutes les actions qui apparaissent à l'intérieur même du ticket.
Mais est-ce que le ticket vous aide à vous souvenir ? Est-ce que c'est une forme d'archive, James Chaton ?
Oui, mais alors c'est une archive éphémère. Elle n'est plus dans le livre, puisque les tickets sont imprimés. Mais alors, une petite particularité, je pense que ça participe aussi de ce travail-là, c'est que vos tickets de caisse, vous le savez, ils vont disparaître avec le temps, parce que ce n'est pas de l'impression, c'est de l'impression thermique.
Ça s'efface, donc.
Ça s'efface. Donc, il fallait rapidement écrire ces histoires avant qu'elles disparaissent.
Donc, unité de temps, de lieu, d'action. On peut même rajouter que l'on connaît les personnages, puisqu'il y a vous, l'acheteur, dans ce cas de cette pâtisserie marseillaise, et il y a aussi Virginie, qui visiblement est la vendeuse.
Voilà, depuis quelques années, parce que ça fait quand même très très longtemps que je travaille avec cette matière écrite, à différents endroits, ça peut être le son, ça peut être l'image, et puis ça peut être là l'objet plus littéraire. Mais donc j'ai observé ces tickets de caisse depuis une vingtaine d'années. Je me suis rendu compte que depuis quelques années, 4-5 ans, vous trouvez souvent un nom ou un prénom, où on vous donne le nom ou le prénom de serveur ou de la caissière.
Ça humanise, soi-disant.
Voilà, hein, ça humanise. Moi, ça me sert, puisqu'effectivement, ça fait apparaître, pour le coup, des personnages.
Donc, avec ces mots que vous choisissez de façon un peu empirique ou poétique dans le ticket de caisse, vous écrivez des histoires et vous nous racontez des histoires, puisque dans ce livre, il y a 145 tickets de caisse, mais 145 histoires issues directement de ce moment, de cet achat. Donc, par exemple, sur la boulangerie Le Pain Marseillais, le fameux achat de la tarte citron meringuée, vous écrivez un court texte qui s'appelle « La torgnole » et que vous allez nous lire.
Alors, la torgnole. Un pain, une tarte, une torgnole dans le citron, c'est tout ce qu'il méritait, se dit Virginie, lorsqu'elle apprit que cette espèce d'imbécile chantait sur tous les toits qu'il avait un ticket avec sa meilleure amie.
Donc c'est un jeu, en fait. Très court texte avec les mots,
on
les reconnaît, Virginie,
tarte. C'est ludique, il n'y a plus... Oui, ça dépend. Alors, le procédé, je vais le donner à nos auditeurs, puisque l'idée, c'est aussi que maintenant, dorénavant, peut-être, quand vous faites vos courses, vous conservez votre ticket, vous mettez à écrire des histoires.
Mais oui, ça va changer la vie.
Le procédé est très, très simple. C'est que vous observez votre ticket, vous le lisez, puis vous prélevez à l'intérieur de ce ticket 5, 10, 15 mots. Voilà. Vous avez une sorte de liste. Et à partir de cette liste, eh bien, vous allez rédiger, vous allez composer une histoire qui pourra être là. Alors là, c'est plutôt une histoire d'amour qui en voie de mal finir. Mais selon la liste de mots que vous retenez, ceux que vous parvenez à inscrire dans le texte, ça peut prendre des directions tout à fait différentes. Ça peut être des histoires policières, ça peut être des romans d'aventure, ça peut être de la science-fiction.
Avec quand même une base qui est le détournement des mots. Par exemple, la tarte, le gâteau, dans ce cas, devient une tarte, c'est-à-dire une gifle.
Une gifle, oui. Mais alors, c'est amusant aussi, c'est qu'après, étant en présence de ce canevas d'écriture, et puis de cette matière écrite qui est quand même un peu contraignante, hein, faut le dire, ça m'a fait déployer des stratégies d'écriture. Et ça m'a fait redécouvrir toutes les expressions ou des formules qu'on peut avoir qui m'ont permis de venir prélever, enfin, insérer ces mots-là dans un Dakar. J'en ai relevé quelques-unes pour notre rencontre. Par exemple, dresser un pont d'or, se refermer dans sa coquille, les carottes sont cuites, avoir des atouts dans sa manche. Voilà, il y a toutes ces expressions qui, en puisant à l'intérieur de ce capital d'expression, ça m'a permis d'utiliser des mots qui, a priori, étaient plus difficiles à insérer dans un...
Oui, à caler.
À caler, quoi, à caler.
Dans une autre histoire, il y a un burger qui se transforme en Rodolphe Burger, le musicien, parce que je me suis dit que vous avez quand même l'esprit farceur. On ne sait jamais comment prononcer son nom à Rodolphe Burger.
Oui,
si c'est Burger Burger, et là, vous y allez dans le mille. En fait, vous rajoutez de la fiction au réel. Est-ce que c'est cela, le projet
Alors, oui, mais ça va dans les deux sens. Je pense que le réel lui-même nous invite à aller vers la fiction. Et je ne fais finalement que le suivre dans ses autres possibilités de réel. Le réel, c'est pas un objet figé, c'est pas un objet dur. Il suffit de l'observer, de déplacer un peu l'angle de vue, de lire différemment. Voilà, vous lisez à peine différemment votre ticket de caisse avec un autre état d'esprit et ce réel devient possiblement d'autres réels et des fictions.
Alors, vous allez nous raconter comment ce livre, Fable, s'inscrit dans votre travail de poésie sonore, Anne-James Chaton. Mais auparavant, je vous propose d'écouter Solane, actuellement en tournée après la sortie de son premier album. Si on sombre, ce sera beau.
Je ne regrette pas mon nid. Plumage tacheté de gris qui vire maintenant au vermillon. Je ne verrai plus les saisons. Je ne regrette pas ma coquille, mon œuf, ma branche, le ciel qui brille. Je finis ma vie entre des crocs, moi qui l'ai commencé bien haut. Pas déçu, le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu, j'en viens et j'y retournerai. Ma fin, je suis pas déçu, le chat m'a eu. Je reviens et j'y capote, mais se paye cher. Et tu es celui des vipères. Je ne regrette pas mon envie d'avoir faim et d'aimer la vie. Je n'ai pas vu le chat venir dans les hautes herbes de mes désirs. Ma faim, je suis pas déçu. Le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu.
Solane sur RFI avec ce titre « L'oiseau » dans De Vive Voix et un poète qui fait fiction de tous les mots, Anne James Chaton, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Fable. Pourquoi avoir choisi ce titre, car il n'y a ni renard ni corbeau dans votre livre?
Il y a quelques animaux. Je crois qu'il y a quand même une girafe.
Enfin, voilà, il y a une mule. Vous achetez des mules qui se transforment en mules.
Il y a une mule, il y a une girafe, il y a quelques animaux. Alors, fable, c'est pour réinscrire, enfin, c'est un peu pour inscrire le contrepoint de quelque chose qui reste malgré tout des tickets de caisse, des choses très informatives, pour le rattacher à une grande tradition de la littérature et à des formes qui immédiatement vont vers cette idée on peut aller jusqu'... Vous disiez qu'on allait dans la fiction, on va même jusqu'au fantastique, jusqu'au...
Alors c'est vrai qu'il peut, vous pouvez plutôt nous raconter plein d'histoires. Ça peut donner lieu à une soirée SM, à des rencontres, à des ruptures, à un match de foot à Naples. Enfin, tout est possible à partir d'un ticket de caisse. Vous avez même fait une fable de votre propre nom, puisque vous prenez un récépissé de demande de titre biométrique pour refaire donc une carte d'identité. Et on apprend à l'occasion que vous vous appelez aussi Emmanuel.
Oui. Hein,
et que vous faites donc dialoguer Anne et Emmanuel, c'est vos deux prénoms ensemble. Mais on apprend aussi que Chaton est votre vrai nom, ce dont je doutais.
Ah oui, mais Anne James est aussi mon vrai prénom. Enfin, l'ensemble est un...
C'est Anne James, Emmanuel Chaton.
Emmanuel est mon second prénom. Mon premier prénom, c'est Anne James. Et Chaton, le nom de famille, oui. Donc non, ce n'est pas un pseudonyme.
Est-ce que c'est une citation?
Et là, ça me semblait, ce ticket, je voulais, c'était un peu une référence aussi au courant de l'autofiction. Je me fais apparaître aussi dans le livre, avec quelque chose de très, très identifié, puisque c'est une demande de papier d'identité.
Oui, mais il y a de l'autofiction.
Mais voilà, ça crée de l'autofiction.
Ou de l'autobiographie, je ne sais pas comment le dire, puisqu'on vous retrouve, même s'il y a des tickets de caisse envoyés par des amis, on vous suit quand même plus ou moins entre 2022 et 2024. Est-ce que c'est vraiment un projet qui est circonscrit dans le temps, comme ça, pendant 2 ans, ou c'était un vieux projet qui finalement aboutit à l'occasion de ce livre?
Non, c'est un projet qui a surgi, en quelque sorte, parce que ça fait très longues années, comme je vous le disais, que j'observais cette écriture, que je l'ai manipulée dans différentes directions. Et puis, j'ai eu cette espèce de révélation un jour où j'ai constaté que Boileau me permettait de les décoder, de les lire différemment. Et c'est à partir de là qu'est née l'écriture de ce volume. Il se trouve qu'à l'époque, c'est pour ça qu'on va retrouver dans le livre, enfin, quand même beaucoup de tickets italiens. Parce que je séjournais en Italie à ce moment-là, à la Villa Médicis, et c'est là où j'ai commencé à collectionner les tickets qui allaient devenir des fables. Donc c'est à la fois un livre qui vient de très loin dans mon travail, mais qui aussi, tout à coup, l'emmène dans un endroit, voilà, dans cette grande histoire de la littérature, auquel je ne m'attendais pas du tout.
Mais c'est écrit immédiatement après l'achat, après...
Non, plus tard. Ça peut l'être immédiatement après. Ça dépend en fait de ce que je fais au moment où je fais l'achat. Bah, si je fais un achat et que je vais au café 2 minutes après pour boire un café, j'ai mon ticket avec moi.
C'est parti.
Mais ça peut s'écrire dans tous les contextes, dans tous les endroits. Ouais.
Parce que vous aimez quand même l'immédiateté. Vous aimez le temps présent.
Oui, oui. Mais j'aime le temps présent, justement, dans tout ce qui peut parler des autres temps. Alors, dans le temps présent, on a tous les temps. On a le passé, on a le futur, on a le plus que parfait, on a le... Il est, c'est, le c'est effectivement le centre du travail, mais, ça, mais c'est à partir de ce centre-là que je vais aussi bien retourner très loin dans le passé, par exemple quand je travaille sur Pline l'Ancien, ou alors quand je vais aller dans le futur en travaillant avec des artistes comme Alvan Otto, Carsten Nicolas, des objets plus numériques, plus... Donc c'est mon centre, mais... Voilà, je m'en échappe.
Vous faites des allers-retours.
Je m'en échappe.
En tout cas, ce travail sur l'immédiatement contemporain se retrouve aussi dans vos performances et vos enregistrements précédents. En 2009, par exemple, vous avez sorti un album qui s'appelle Événement 2009, année où est élu un certain...
De Barack Obama, 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 de Barack Obama. L'investiture de Barack Obama.
15 secondes. Est-ce que la poésie, c'est du rythme? Est-ce que c'est de la répétition, Anne-Jeanne Chaton?
Ça peut prendre différentes formes, mais en l'occurrence, moi j'ai beaucoup travaillé sur... bon, la répétition déjà étant une forme, une figure de style. Mais moi, venant d'une histoire poétique qui se relie directement à ce qu'on appelle la poésie sonore, c'est-à-dire des poésies qui tout de suite vont non seulement rechercher le rythme à l'intérieur de la langue, ou des langues même, parce qu'une langue n'est jamais unique, mais également aller aussi vers les mises en voix et le travail rythmique de mise en voix. Donc, cette association des deux, moi, m'a tout de suite fait relier la répétition, l'itération, au loop.
La boucle, donc.
La boucle que là, je suis plutôt allé chercher chez les musiciens de la musique électronique et de... Donc c'est une espèce de...
Vous vous définissez comme un poète sonore, hein ?
Oui.
C'est-à-dire que c'est le son du mot qui doit toucher l'auditeur ou le lecteur ?
Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas hiérarchiser entre ce qui va venir... Dans l'objet texte et l'objet son vont se marier pour composer ce qu'on appelle un poème sonore, mais les deux ont leur... C'est un peu comme dans une balance. Les deux vont rentrer en résonance pour créer cet objet de poésie sonore. Mais le son peut venir du son lui-même que du texte et inversement.
Mais vous faites une distinction quand même très claire entre poésie sonore et poésie orale. C'est quoi la différence pour vous ?
Alors, ce qui pour moi est la grande différence entre ces formes-là, c'est que la poésie sonore, même si elle s'inscrit dans cette grande tradition, dans cette histoire-là, elle va nécessiter une technologie. En gros, c'est la poésie orale plus l'électricité. Les premières formes de poésie sonore apparaissent parce que les poètes se mettent à travailler avec un outillage qui vient d'apparaître, qui est le magnétophone à bande. Ils s'approprient en quelque sorte un nouvel outil, qui n'est pas leur, qui vont aller emprunter c'est les musiciens les premiers qui vont le détourner. Notamment Bernard Haitink me racontait que quand lui a démarré le travail d'écriture de poésie sonore, il en a eu l'idée quand il est sorti d'un concert de Stockhausen, le chant des adolescents. Où Stockhausen, justement, recompose la musique à partir de magnétophone à bande. Donc la grande différence entre ces deux champs poétiques, il va être là. C'est-à-dire que la poésie sonore nécessite un travail sur... Il y a une technologie, il y a des technologies qui viennent manipuler le son de la voix et le son de l'écrit.
Et vous pouvez restituer donc la matière sonore à tous les textes, à tous les mots ou presque, qu'ils soient de vous ou de Verlaine.
A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, C, C. A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, C, C.
Les sanglots longs des violons.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, C.
Les sanglots longs des violons.
A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, C, C.
Les sanglots longs des violons.
A, A, B, B, C, C, B, B, D, D, B, B.
Les sanglots longs des violons de l'automne.
Extrait de l'album Alphabet, publié en 2019 avec Alvan Otto, où l'on retrouve le sonnet de Verlaine, qui a servi sur Radio Londres pour annoncer le débarquement en 1944 sur les plages normandes. Pourquoi lui? Pourquoi Verlaine? C'est un poète qui vous accompagne dans votre parcours,
oui,
Anne Chaton?
Ça fait partie de ces grandes écritures qui m'ont nourri et qui m'ont fait devenir poète. Mais là, par exemple, ce qu'on entend, c'est à peu près le même mécanisme de composition que ce dont on parlait à propos de Fable. Parce que vous avez l'objet Verlaine, enfin le poème de Verlaine, qui sera le moment plus lyrique où la langue se déploie. Et en deçà, vous avez aussi ce rapport à un code, qui est aussi une forme de langue, qui est le code, qui est la codification de la métrique en poésie. Donc c'est une forme très froide, très très numérique quasiment, et qui se relie malgré tout à des envolées quand même plus lyriques.
Et qui est assez hypnotique.
Et qui est hypnotique
dans ce cas-là.
Oui.
Alors ce qui est surprenant avec vous, c'est que vous avez une écriture qui est très directe, qui est très dépouillée. On l'a vu avec Fable, votre, je ne vais pas dire roman, avec vos fables, mais c'est quand même toujours très référencé. Alors ici, il y a Verlaine, dans Fable, vous citez Boileau, dans le précédent livre sur la Terre, c'était Pline l'Ancien, l'auteur de l'Histoire naturelle, qui est cette grande encyclopédie de 77, donc à Rome. Vous êtes un disciple, un héritier, comment vous vous inscrivez dans cette lignée d'écrivains?
Je n'écris pas au sens où je ne suis pas dans un rapport d'inspiration à l'écriture. Je ne jette pas l'écrit sur une page. Je suis d'abord un lecteur. Et ces grands textes, que ce soit des textes latins ou des textes beaucoup plus contemporains, qui vont commencer à me faire travailler l'écriture. C'est d'abord comme lecteur que je commence à écrire. Et je me mets à écrire toujours en compagnie de ces textes qui, bon, je les choisis parce qu'ils me semblent pouvoir dire quelque chose du monde dans lequel on est, que ce soit Pline l'Ancien, la pièce qu'on a entendue avec Alvan Otto, par exemple, le modèle qui est derrière, c'est aussi une forme encyclopédique, ce sont les étymologies d'Isidore de Séville. Donc je vais prendre, que ce soit des tickets de caisse, que ce soit Pline l'Ancien, que ce soit Verlaine, je vais prendre en quelque sorte un sous-texte, je vais le relire, je vais le faire fonctionner différemment, et je vais voir qu'est-ce qui peut nous dire, après toutes ces opérations, qu'est-ce qu'il peut nous dire du monde dans lequel
nous vivons.
Et qu'est-ce qu'il peut dire à mes contemporains? Parce que c'est quand même là l'essentiel, c'est parler, s'adresser à ses contemporains.
Dernier album en date, c'est un livre audio intitulé Douceur, Handmade, volume 1, avec Andy Moore et Yanis Kyriakides, et bien sûr votre voix, Anne-James Chaton.
Et monter une embâne de mesures de barrales d'hyperbole ugolienne. Foisonner trois cannes de fées de maille, de synecdotes de Verlaine. Dépouiller un denier de barre d'hôte, d'antiphrase de Vigny. Équeuter trois quarts de jetée de poule de taille, des panadeps d'Aïtique. Crépiner une once d'ouvrée de perche d'anacolute rimbaldienne. Fouetter un baril d'années de marque d'érosion d'Éluard. Rassir deux quarts ADV de muide d'antonomase de Dubellet. Mortifier trois quarts de fierton de coupe d'aulne de symbole de roche.
Douceur, où l'on cite Ronsard, Dubellet, Apollinaire, Vigny, Éluard et beaucoup d'autres, de nombreux mots aussi que la vie ne dit pas, ni les tickets de caisse. En fait, derrière la simplicité de vos démarches, il y a une grande érudition et un grand goût des mots.
Oui, il y a un amour de la langue, des langues d'ailleurs, des langues, des littératures. Mais ça reste de l'art, c'est une forme de cuisine ou de couture, parce que par exemple dans ce qu'on vient d'entendre, c'est juste le moment, se faire se rencontrer dans ce poème en l'occurrence quatre listes qui sont une liste de figures de style, une liste de noms de poètes, une liste d'actions reliées à la pâtisserie et à la cuisine, et la quatrième liste, ce sont des unités de mesure qui étaient en usage au Moyen-Âge. Donc j'ai ces langues. Et je vais les mettre, que ce soit celle du Moyen-Âge ou celle de... Je vais les mettre en... faire en sorte qu'elles coexistent dans l'unité de la page et pour le coup, là, dans l'unité de la composition avec les musiciens.
Donc mais vous êtes musicien, non, pas vraiment. Alors,
enfin, non, je
mais en fait, vous êtes quand même entre le parler et le chanter quand vous faites ces performances.
Oui, je suis toujours dans le rythme de la langue. Quand j'écris, j'ai toujours la phrase, j'ai toujours une phrase qui va finir par se rythmer, qui fait des pas, qui marche. Les phrases marchent. Et donc, moi, j'essaie d'écouter la vitesse à laquelle elles marchent et les pas qu'elles font.
À cet instant de l'émission, Anne-James Chaton, j'aimerais faire une petite incise et un pas de côté, justement, puisque vous parlez de marche, en saluant la mémoire de Florence Delay, qui est décédée hier, romancière, traductrice, poète, actrice. La Jeanne d'Arc de Bresson, c'était elle, autrice d'une œuvre délicate, La séduction brève, petite forme en prose après Edison, Riche et légère, Etchemendi, ou encore Trois désobéissances en 2004, année où je la recevais, année pendant laquelle elle avait aussi bataillé pour faire entrer, et ça va peut-être vous intéresser, un mot dans le dictionnaire de l'Académie française, puisqu'elle était la quatrième femme à être élue sous la coupole, Florence Delay.
Une des choses les plus difficiles à transmettre, et pourtant tous les jours nous en avons, ce sont les sensations. Les sensations de plaisir, de douleur, de la respiration, du monde. Et moi j'essaye un petit peu d'explorer les sensations. Mais on s'aperçoit... Quand on est dans le métro, dans l'autobus, brusquement, si on imagine ce qui est au cœur des gens qui vous entourent, combien nous sommes réunis dans un bus ou dans un compartiment de métro, et c'est fou, partent de là des chemins dans le monde entier. D'abord, les gens viennent du monde entier, et chacun a quelque chose qui l'occupe, qui l'occupe violemment.
Convivence.
Ah.
Convivance, il faut un tout petit peu expliquer, c'est un mot que vous venez d'introduire grâce à vous, hein, je crois que vous avez beaucoup insisté pour que ce mot revienne ou plutôt rentre dans le dictionnaire de l'Académie française sur lequel vous travaillez et qui veut dire
harmonie, vivre ensemble.
Vivre ensemble.
Vivre ensemble. Oui, c'est un mot qui manquait aux Français. On a convivialité qui signifie le contentement d'être ensemble et de bien manger, de bien boire. Il y a cohabitation, tout le monde sait ce que c'est. Il manquait cet état qui est... Enfin, le mot existe en italien, il existe en espagnol, et en espagnol, il a désigné 8 siècles de convivence entre juifs, chrétiens et musulmans, qu'il n'est pas mauvais de rappeler.
Surtout aujourd'hui.
Surtout aujourd'hui.
En mémoire de Florence Delay, convivence, Anne-James Chaton.
C'est un beau mot. Ah, c'est un très beau mot, oui.
Vous le découvrez, visiblement.
Ah oui, je le découvre, oui, tout à fait. Et pourtant, je parle italien, je ne l'ai pas rencontré en italien. Enfin, je ne parle pas couramment italien. Et oui, je suis heureux de l'apprendre.
Qu'aimez-vous dans la poésie des autres, très brièvement, la brièveté?
J'aime ces langues qui se déploient et qui me font douter de la mienne. La réinterroger, la regarder différemment, la voir s'agiter différemment.
Merci Anne-James Chaton. Fable est édité chez POL, comme vos précédents ouvrages, et notamment Sur la Terre, où il est question de Pline l'Ancien. Quant à ceux qui voudraient lire ou relire ou découvrir l'œuvre de Florence Delay qu'on évoquait à l'instant, l'essentiel de son œuvre est édité chez Gallimard, notamment Riche et légère, qui a obtenu le prix Femina, mais aussi aux éditions de Minuit, quand elle écrit avec Jean Echenoz, ou au Seuil, avec le poète Jacques Roubaud. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur RFI.fr, sur l'application Pure Radio et sur la page Facebook de l'émission.